Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.
Salaire et rémunération, progression de carrière, bien-être et sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, on s'intéresse aux défis auxquels les femmes sont confrontées sur leur lieu de travail. Work needs women. C'est le thème de ce nouvel épisode de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Tous les épisodes de Job News sont disponibles sur jobradio.fr, accessibles également depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas d'ailleurs, surtout même, à réagir en commentant l'épisode que vous pouvez écouter ou en remplissant les petites étoiles depuis ces mêmes plateformes. Bonjour Noémie Boulard.
Bonjour.
Tu es responsable grand compte, secteur des services à la personne chez Indeed France. Alors, il y a tout juste un an, le gouvernement d'Elisabeth Borne présentait son plan Égalité 2027 entre les femmes et les hommes, qui prévoyait notamment de renforcer la responsabilité des entreprises et de la fonction publique dans l'atteinte de l'égalité salariale et de l'accès égal à des postes de responsabilité. Et du 14 au 23 novembre dernier, pour le compte d'Indeed, YouGov a réalisé une grande enquête internationale pour laquelle plus de 14 500 femmes ont été interrogées. C'était quoi l'objectif de cette enquête, Noémie ?
Et ben en effet, donc Indeed a commandité donc cette étude mondiale en interrogeant des femmes qui occupent un emploi dans 11 pays. L'objectif de cette étude, c'était de recueillir le ressenti des femmes et mieux comprendre les tendances qui affectent les femmes sur leur lieu de travail. Le focus a été mis notamment sur les inégalités auxquelles elles font face et leur confiance dans l'avenir, dans leur carrière. Donc, ce qui est déjà notable, c'est que malgré des différences de culture, de contexte économique dans ces 11 pays, eh bien, les femmes s'accordent sur les mêmes défis qu'on va aborder ensemble aujourd'hui.
Ok, alors tu parlais de 11 pays, si j'ai bien écouté. Justement, dans quels pays ont été interrogées ces différentes femmes ?
Alors, il y a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Angleterre, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Inde, Singapour, le Japon et enfin l'Australie.
Eh bien parfait, on va s'intéresser aux résultats français de cette enquête et pour les besoins de cet épisode, on trouvait tout simplement pertinent de pouvoir confronter les résultats de l'étude à la réalité du terrain grâce à une invitée également avec nous en plateau. Bonjour Mathilde Tabary.
Bonjour.
Tu es directrice relations sociales Europe et engagement collaborateur chez Clariane, première communauté européenne du soin, de la santé, de l'hospitalité au service des personnes fragiles. C'est quoi concrètement Clariane ?
Bien, ce sont des maisons de retraite, des cliniques, l'activité de soins à domicile, et ce en France et dans plusieurs pays en Europe. Et donc ce sont des métiers d'aide-soignants, d'infirmières, infirmiers, de médecins, de directeurs et directrices d'établissements. Et aussi en restauration et en hébergement. Voilà. Et 80% de femmes chez Clariane.
Ah oui, c'est un éventail très large, en fait. Tu es, je disais, directrice des relations sociales Europe et engagement collaborateur. Ça consiste en quoi, concrètement, ton job?
Ça consiste à animer les relations sociales au niveau Europe. Donc, animer le conseil, le comité d'entreprise économique au niveau européen et négocier des accords au niveau européen, comme par exemple sur la santé et la sécurité, en complément et en appui de ceux qui peuvent être négociés dans les pays. Voilà. Et c'est aussi sur la partie engagement, eh bien, des sujets de diversité, d'inclusion que j'anime et avec les collègues RH des différents pays.
Oui, alors je me suis amusé en préparant cet épisode à aller faire un tour sur ta fiche LinkedIn. J'ai vu que tu étais très impliqué également dans les politiques, tu le disais d'ailleurs à l'instant, d'inclusion et d'égalité. Tu co-gères également le Women's Club de Clariane. Tu nous expliqueras tout à l'heure d'ailleurs de quoi il en retourne concrètement. Et puis, depuis leur création, tu es impliqué aussi auprès d'ONU Femmes France et du réseau Entreprises et Handicap de l'Organisation Internationale du Travail. Noémie, au niveau salarial et des écarts de rémunération entre femmes et hommes, que nous révèle finalement l'enquête au niveau du ressenti des femmes en France ?
Eh bien, l'étude révèle que l'écart, il est encore bien présent. Le chiffre est probant. Il y a 8 femmes françaises sur 10 qui ressentent un écart au niveau du salaire. Il y a aussi une femme sur deux qui pense qu'elles sont moins bien payées que leurs collègues masculins. Et cet écart, il est même jugé comme important par 68% des femmes interrogées. Le deuxième constat, c'est qu'on note aussi une frustration de la part des femmes, puisqu'il y en a 3/4 qui estiment ne pas être assez payées par rapport au travail réalisé.
Alors moi, j'ai vu aussi un autre chiffre. L'étude nous apprend que 46% des femmes n'ont jamais demandé d'augmentation de salaire au cours de leur carrière. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier, justement, où les femmes ne demandent effectivement jamais d'augmentation ?
Oui, et cette trop faible proportion des femmes à oser demander une augmentation peut d'ailleurs être un facteur explicatif de cet écart salarial. familial. Et il y a en effet des secteurs qui ont été cités. C'est davantage le cas dans le commerce, l'enseignement, mais aussi le secteur de la santé, à 60%.
Alors justement, arrêtons-nous sur le fameux secteur de la santé. Mathilde, chez Clariane, est-ce que les salariés femmes sont effectivement moins enclines à demander une augmentation?
La réalité ne montre pas vraiment d'écart de salaire, notamment dans les métiers du soin, qui sont quand même très encadrés par la législation, par la négociation collective. La réalité ne montre pas ça. Par contre, après, l'augmentation de salaire, elle s'accompagne aussi de la promotion. Et c'est l'enjeu, à mon avis, et surtout là, c'est que les femmes osent demander une évolution de carrière, une promotion, autant que les hommes. Et ça, les études montrent aussi qu'elles sont justement moins, elles osent moins, elles s'auto-censurent. Donc l'enjeu, il est là. Et à partir du moment où on a la promotion, on a l'augmentation de salaire aussi.
Donc c'est plus la démarche d'aller demander une promotion, d'évoluer dans sa carrière, qui est plus compliquée à demander qu'un homme.
Oui.
Ok. Noémie, est-ce que l'enquête nous dit pourquoi les femmes n'osent pas justement demander d'augmentation de leur rémunération?
Oui. Alors, il y a trois facteurs qui expliquent ce frein. Le premier, qui ne surprend pas tant que ça quand on voit le faible pourcentage de femmes qui sont à l'aise à le demander, c'est le manque de confiance en elles, à 34%. Le deuxième facteur, c'est aussi le manque de possibilités. Il y a 31% des femmes qui jugent tout simplement ne pas avoir eu l'occasion d'en discuter ou d'aborder le sujet avec son employeur. Et enfin, il y a la crainte des conséquences négatives à 20%.
Et est-ce qu'il y a aussi une catégorie d'âge où les femmes sont plus insatisfaites quelque part de leur salaire?
Oui, tout à fait. Il semblerait que les femmes de la génération Z, donc la tranche d'âge 18-24 ans, soient les plus insatisfaites de leur rémunération, suivies ensuite des salariés de 45 à 54 ans. Et si on fait un zoom aussi sur les secteurs les plus concernés, on retrouve notamment la santé à 79%.
Alors c'est bien de demander une augmentation, encore faut-il que ce soit suivi des faits derrière. Parmi les femmes justement qui ont réussi à demander cette hausse de salaire, combien ont réussi à en avoir une et dans quelle proportion cette augmentation correspondait effectivement au montant de la hausse réclamée?
C'est assez encourageant de voir que parmi celles qui ont demandé une augmentation de salaire, il y a les trois quarts qui ont reçu une forme d'augmentation de leur rémunération. En revanche, il y a 48% des femmes qui ont reçu une augmentation plus faible que ce qu'elles avaient demandé et elles sont 23% à n'avoir reçu aucune augmentation suite à leur demande.
Alors cette question qui suit, elle s'adresse évidemment à toutes les deux. Quelles sont les principales raisons de l'inégalité de progression de carrière entre hommes et femmes?
Chez Clariane, déjà, je dirais quand même que les femmes évoluent en vérité, hein, parce qu'on a 54% de femmes dans le top management, ce qui est un chiffre vraiment très, très bon, hein, par rapport à beaucoup d'autres entreprises. Donc les femmes évoluent et on est plutôt fiers. Après, cela étant, si on cherche les raisons pour lesquelles elles seraient freinées dans leur carrière, donc on l'a fait avec le Women's Club, on a interrogé 700 femmes en France et en Europe, et elles nous ont expliqué que, en premier lieu, il y a l'autocensure, le fait de ne pas forcément candidater pour des raisons de crainte d'équilibre de vie, de perte d'équilibre de vie ou de charge de travail liée à la charge de travail. Et puis, il y a aussi les stéréotypes. Donc, le fait de porter sur les femmes des préjugés qui feraient que, du coup, elles sont moins choisies que des hommes pour des postes à responsabilité. C'est le ressenti exprimé par les femmes dans le cadre de notre enquête interne.
Noémie?
Ça complète exactement le cas de Clariane. Ce qui ressort, ça va être dû à du sexisme ou à des préjugés inconscients. Ces préjugés inconscients, ils sont cités à deux niveaux, à la fois de ce qui se passe en entreprise, au sein de son entreprise, mais également au niveau de la société.
Quelle importance les femmes, elles accordent à ce sentiment d'appartenance et au bien-être au travail, qui sont des sujets évidemment hyper importants.
Soyons clairs, les femmes accordent un très fort niveau d'importance au sentiment d'appartenance et de bien-être. Il y a 8 femmes sur 10 qui déclarent qu'il est important de pouvoir se sentir soi-même au travail. Et dans ce cadre, la culture d'entreprise, elle est vue comme importante. Et il ressort surtout de l'étude qu'elle doit être travaillée par les entreprises parce qu'il y a uniquement 39% des femmes qui se disent satisfaites de la culture d'entreprise.
Ok, alors chez Clariane, comment ça se concrétise justement le sentiment d'appartenance? Et si on parle de QVT, la fameuse qualité de vie au travail, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement sur place?
Déjà, comment se concrétise le sentiment d'appartenance? Dans le cadre de l'enquête annuelle de satisfaction que nous menons donc auprès des salariés en France et en Europe, on voit que 82% des salariés disent qu'ils sont fiers de travailler chez Clariane. Donc il y a un fort sentiment d'appartenance et c'est un taux qui est relativement stable d'année en année et qui augmente progressivement. Alors ce sont des bons taux qui reflètent tout l'engagement, j'ai envie de dire, qui est inhérent en fait au métier du soin. Ce sont des métiers de passion, avec des salariés qui sont extrêmement engagés, dans leur travail pour s'occuper donc des personnes fragiles et vulnérables. Une fois qu'on a dit ça, nous on réfléchit aussi aux actions pour accompagner les salariés pour une meilleure qualité de vie au travail. Et donc là, on a toute une palette d'actions qui sont mises en œuvre, notamment pour prendre en compte les situations personnelles qui peuvent être difficiles. Et je pense par exemple à l'aide d'urgence pour la garde d'enfants qui avec Baby Relais qui est mise en place en France, ou du relogement et de l'hébergement d'urgence qui est mis aussi en place pour accompagner les femmes victimes de violences en France. Donc voilà, on a des actions comme celle-ci et des actions pour accompagner nos salariés qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur travail, et notamment par rapport à des relations difficiles avec des résidents, avec des collègues. Et là, on a une ligne d'écoute en place chez Clariane en France et aussi dans d'autres pays. On développe la médiation qui permet d'intervenir pour aider à résoudre des situations un peu difficiles avec des résidents, mais aussi entre salariés eux-mêmes sur un lieu de travail.
Noémie, quelles actions les Françaises elles préconisent justement pour avoir un environnement de travail plus sain ?
Eh bien, les femmes interrogées ont cerné des actions concrètes et qui nous parlent particulièrement chez Indeed. Il y a déjà la formation sur les préjugés inconscients à 36%. Là-dessus, je peux vous parler d'un super exemple qu'on a mis en place. C'est le partenariat avec le groupe SOS, qui est la première entreprise sociale d'Europe, qui partage déjà notre vision d'aider tous les candidats à trouver un emploi. Et dans ce cadre, on propose des modules de formation à nos partenaires pour les aider à recruter de manière inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire de recruter de manière inclusive ? C'est déjà de s'assurer qu'on rédige une offre qui parle à tous. C'est de savoir mener un entretien également sans CV. La deuxième action qui ressort, c'est le fait aussi d'avoir un responsable de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance en interne à 34%. Et là-dessus, c'est vrai qu'il n'est pas toujours identifié en interne, même s'il est travaillé.
Et dans quelle proportion les femmes pensent que leur entreprise ne prend aucune mesure pour combattre l'inégalité de genre ?
34%. Elles sont 34% à penser qu'aucune action a été faite dans leur entreprise pour venir à bout de l'inégalité. Et si on rebondit sur les actions citées juste avant et l'importance notamment d'avoir un responsable diversité et inclusion, il y a juste une femme sur 10 qui déclare que leur entreprise en possède. Donc là-dessus, on sent bien que c'est des sujets qui doivent être encore bien implantés et qui restent aujourd'hui assez marginales.
Et sur les questions, parce que l'étude en parle, les questions autour de la santé mentale et du harcèlement, par exemple, au travail, c'est quoi la perception des femmes qui ont été sondées ?
Au niveau de la santé mentale, les femmes françaises sont moins concernées par ces problèmes que la moyenne mondiale. Elles sont 65% à déclarer n'avoir jamais eu affaire à ce sujet, contre 45% de la moyenne mondiale. Il y en a tout de même 21% qui déclarent avoir eu ce genre de problème. On remarque que c'est notamment les jeunes femmes qui sont davantage touchées par ce problème. Et il reste en revanche 14% des femmes qui ne préfèrent pas se prononcer sur le sujet. Donc on sent bien quand même que ça reste un sujet tabou. Concernant le harcèlement au travail, le taux peut paraître faible. Il reste que 24% des femmes qui déclarent avoir subi du harcèlement sur leur lieu de travail, mais il reste quand même significatif.
Des sujets toujours d'actualité. Mathilde, je le disais tout à l'heure en introduction en te présentant, tu co-gères le Women's Club de Clariane. C'est quoi concrètement les objectifs de cette organisation dans l'organisation ?
L'objectif, c'est d'initier des actions en faveur des femmes, donc sur deux sujets principalement. La prévention sur la lutte contre les violences envers les femmes et l'accompagnement des femmes qui peuvent être victimes de violences. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est renforcer le leadership et l'empowerment des femmes chez Clariane. Donc c'est un réseau qui regroupe des femmes et des hommes d'ailleurs, de toutes fonctions chez Clariane, en France et dans les autres pays, qui est sponsorisé par notre CEO en personne, notre directrice générale. Et donc nous menons des actions diverses et variées depuis 3 ans.
Alors justement, sur ces deux sujets-là, centraux, importants, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions concrètes ?
Concrètement, on est très impliqué dans la campagne Orange the World qui se déroule sur une quinzaine de jours à partir du 25 novembre chaque année. Donc en partenariat avec le réseau One in Free, le Women's Club anime la campagne de communication en collaboration avec les équipes RH et de communication du groupe pour sensibiliser donc sur les violences faites aux femmes. Le réseau Women's Club a aussi développé des partenariats avec des associations, comme par exemple l'association DIRE en Italie, ou la Maison des Femmes aussi en France. Le réseau développe des formations, donc en partenariat avec les associations. Et on a en Italie l'ensemble des managers de sites, par exemple, qui ont été formés pour prévenir les violences faites aux femmes et savoir quoi dire, quoi faire, comment accompagner des femmes victimes de violences.
Noémie, de manière générale, c'est quoi le niveau de satisfaction des femmes pour ce qui concerne les stratégies d'inclusion dans leur entreprise ?
Eh bien, globalement, les femmes se déclarent satisfaites de l'approche de leur entreprise en matière de diversité, équité et inclusion à 40%. Et il y a tout de même 20% des femmes qui se disent aujourd'hui insatisfaites.
Et est-ce qu'on a une idée du pourcentage de femmes qui ont subi du harcèlement lors d'un entretien d'embauche ?
Elles sont 6% à déclarer avoir subi un acte de harcèlement. Les femmes de 18 à 24 ans sont celles qui auraient le plus expérimenté ce type de harcèlement, puisqu'elles sont 8 points au-dessus de la moyenne nationale.
Et comment est-ce qu'elles évaluent l'impact du sexisme et des préjugés inconscients sur leur carrière ?
Eh bien déjà, les femmes se sentent moins écoutées. Il y a une femme sur deux qui pense que si une femme exprime son opinion ou soulève un problème au travail, elle est moins écoutée qu'un homme dans la même situation. Elles ont également ce sentiment qu'elles doivent travailler plus pour se faire une place. Et ce sentiment, il touche quand même 69% des Françaises. Et enfin, on a plus de la moitié des Françaises qui pensent qu'il est plus facile pour les hommes de progresser dans leur carrière. Et ce chiffre, il est vraiment largement supérieur à la moyenne mondiale qui est, lui, à 46%.
Mathilde Clariane est membre du réseau One in Three Women. C'est quoi l'objectif et pourquoi est-ce important justement que des entreprises s'engagent dans ces causes, même si j'enfonce des portes ouvertes, mais pourquoi c'est important ?
Alors déjà, One in Three, c'est la force du collectif, j'ai envie de dire. C'est un réseau animé par la fondation FACE et qui regroupe plusieurs entreprises dont nous faisons partie, mais aussi L'Oréal, la fondation Kering, Carrefour et BNP Paribas. Qu'est-ce que l'on fait dans le cadre de ce réseau ? Eh bien, nous échangeons sur les pratiques des uns et des autres, nous enrichissons chacun des pratiques des uns et des autres et nous construisons des outils. Et par exemple, on a construit un e-learning de sensibilisation sur les violences qui a été traduit aussi d'ailleurs dans les différentes langues. Et pourquoi c'est important ? Parce que 54% des salariés interrogés dans une étude d'ailleurs menée par One in Three disent que les violences affectent négativement leur travail. Quand elles en sont victimes, les violences affectent négativement leur travail. Donc ce qui se passe dans la vie privée impacte le travail. Par ailleurs, chez Clariane, on a plus de 80% de femmes. Or, 88% des victimes de violences sont des femmes. Donc au final, on a donc une population qui statistiquement peut subir des violences, lesquelles vont impacter le travail. Donc au-delà de ça, préserver la santé, la sécurité de nos salariés, c'est un engagement, ça fait partie de nos engagements en tant qu'entreprise responsable. Cela a été renforcé dans le cadre de la transformation en société à mission. Et ça passe par la prise en compte de problèmes rencontrés dans la vie personnelle comme les violences domestiques.
Alors c'était il y a presque un an, 12 avril 2023 pour être précis, la France qui ratifiait la convention de l'Organisation internationale du travail pour l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail. Je vous pose la question à toutes les deux, ça va dans le bon sens ?
Ça va dans le bon sens parce que c'est un sujet que l'ensemble des acteurs doit prendre en compte, aussi bien les entreprises, les associations, les pouvoirs publics. Et donc la ratification de la convention par la France ne peut que aller dans le bon sens.
Et on le ressent dans l'étude, il y a des attentes au point de vue de nous, acteurs des ressources humaines, d'une entreprise, mais aussi de la société. Donc ça va en effet dans le bon sens.
Noémie, est-ce que l'enquête, elle nous indique comment la crise économique continue d'affecter les inégalités entre hommes et femmes, selon les femmes, encore une fois, interrogées pour les besoins de cette enquête ?
Oui, alors déjà, il faut noter qu'elles sont 48% à penser que la crise impacte plus les femmes que les hommes. C'est 12 points de plus que l'ensemble des femmes à l'international. Et cette crise, elle est accentuée par la précarité dans laquelle se retrouvent certaines femmes et qui s'explique par des situations qui sont plus répandues par la gente féminine. On va prendre l'exemple de la famille monoparentale avec la garde d'enfants, un emploi à temps partiel par exemple. Et enfin, On est aussi encore malheureusement trop dans un système où pour un emploi égal, le monde de l'entreprise va plus facilement considérer que les femmes disposent de moins de temps disponible. Et c'est vrai qu'il faut aussi saluer toutes les initiatives, comme par exemple l'allongement du congé paternité, parce que la parentalité ne doit pas être que l'affaire des femmes.
Dans leur évolution de carrière, quels sont les secteurs où les femmes sont les plus optimistes et à l'inverse, le moins optimiste ?
Alors déjà, globalement, l'étude nous révèle que seulement 30% des femmes sont optimistes au sujet de leur carrière. Les plus optimistes sont celles dans le domaine des médias, marketing, sales, suivies par la comptabilité et enfin le bâtiment. Et en revanche, les femmes dans le domaine de l'IT, télécom, hôtellerie, commerce et enseignement sont celles qui sont le plus pessimistes quant à leur carrière.
Eh bien, merci pour ce retour sur cette enquête. Depuis la présentation du plan égalité 2027 entre les femmes et les hommes, est-ce que vous pensez, là aussi toutes les deux, que les choses avancent comme il faut et suffisamment, notamment sur les questions en lien avec l'égalité salariale et l'accès égal aux postes à responsabilité ?
Il reste des progrès à faire, c'est sûr, et je pense que le plan égalité va plutôt dans le bon sens. Et il y a un point que je trouve extrêmement intéressant dans ce plan, c'est la partie culture de l'égalité. Tout commence par ça, j'ai envie de dire. Il faut mieux sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, donc collège, lycée, sensibiliser sur les stéréotypes et ainsi combattre, réussir à orienter les jeunes filles et les jeunes garçons différemment. Et moi, chez nous, donc on a dans le secteur de la santé, on a quand même, nous sommes confrontés à une pénurie de personnel importante et il est commun d'entendre encore que ces métiers ne sont que pour les filles, parce que les filles seraient plus sensibles, plus attentionnées. Voilà. Or, ces métiers sont pour tout le monde, mais il faut là arriver à convaincre dès le plus jeune âge, à la fois les parents aussi et les jeunes dans cette direction. Et donc la fondation chez nous, Clariane, qui s'appelle Aimer Soigner, a entrepris ça et va au-devant des élèves dans les collèges et les lycées pour combattre ces stéréotypes. Mais je pense que c'est vraiment un travail conjoint des pouvoirs publics, des associations, des entreprises. Donc il faut continuer.
Noémie, sur le plan égalité 2027, quelle est la position d'Indeed là-dessus ?
Eh bien, ça rejoint ce qu'expliquait Mathilde. On peut dire que l'égalité homme-femme avance lentement et que les mentalités ont du mal à changer, puisque si on reprend les données du ministère du Travail, l'index égalité professionnelle stagne. En revanche, il y a des dispositifs qui se mettent en place et on peut notamment en citer quelques-uns. Premièrement, sur le sujet de la parité homme-femme dans des postes à direction, il y a l'action de Women on Boards qui fixe des quotas de femmes à mettre en place d'ici 2026 dans des conseils d'administration, qui pourra donc entraîner une amélioration de l'accès aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises françaises. Ensuite, sur le sujet de l'égalité salariale, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, il se réduit. Il serait de 14,9% pour un temps de travail identique en 2022. Mais la France reste mauvaise élève puisqu'elle est au-dessus de la moyenne européenne qui est, elle, à 12,7%. Sur ce dernier point, on est vraiment convaincu qu'il faut du coup continuer à insister, notamment sur la transparence des salaires qui reste un moyen efficace pour inciter les entreprises à payer les femmes au même salaire que les hommes. Et cette solution, elle a d'ailleurs été adoptée par l'UE en mai 2023, qui a mis en place une directive qui fixe les règles de transparence de salaire. Donc globalement, on a tous un rôle à jouer, notamment en tant qu'acteurs DRH, pour à la fois jouer la carte de la transparence en affichant dès l'offre une fourchette de salaire, mais aussi en s'assurant que le dialogue est ouvert, en donnant l'occasion de s'exprimer sur sa rémunération, sur son avenir professionnel, et enfin de communiquer sur une stratégie d'inclusion claire et de faire identifier le référent en interne.
Bien, voilà une réponse bien complète. Mathilde, quelque chose à ajouter par rapport à cette enquête réalisée par Indeed et YouGov?
Peut-être en lien avec ce que vient de dire Noémie sur diversité et inclusion. Donc on a chez Clariane de nombreuses actions en ce sens avec des référents diversité et inclusion qui sont identifiés et des actions pour à la fois former, comme j'ai déjà dit, mais par exemple formation sur les agissements sexistes, la lutte contre l'homophobie, la diversité et l'inclusion dans le recrutement, voilà, tout ça sont des modules de formation qui sont proposés à l'ensemble de nos managers en France. On a travaillé et les collègues ont signé avec les partenaires sociaux un accord handicap cette année qui a été renouvelé pour la deuxième fois et signé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc voilà, sur tous les volets, j'ai envie de dire, de la diversité et de l'inclusion, nous sommes présents et nous sommes très actifs, aussi bien en France que dans les autres pays et nous sommes vraiment partie des entreprises engagées et actives sur ces sujets.
Tu parlais d'inclusion dans le recrutement. Justement, on se rappelle qu'on est aussi sur Job Radio. C'est peut-être le moment aussi de rappeler que Clariane recrute.
que Clariane recrute sur tous les postes d'aide-soignant, d'infirmier, de directeur et directrice d'établissement, en restauration, de cuisinier, de chef cuisine. Voilà, il y a beaucoup de postes sont ouverts et j'ajouterais que non seulement ils sont ouverts, mais ils vous permettront, vous qui nous écoutez, de faire une belle carrière, car on a développé et renforcé une université Clariane depuis cette année et avec une offre de formation très complète et qui permet d'accompagner chacun dans son parcours. Et par exemple, si on démarre dans un poste de soignant, on peut évoluer vers un poste de chef infirmier, chef infirmière et être accompagné par l'université Clariane. Donc, soyez nombreux et rejoignez-nous.
Avec des perspectives d'évolution donc à la clé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.clariane.com. Merci Mathilde d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Un grand merci également Noémie.
Merci à toi.
Une belle continuation. Ça s'appelle Job News by Indeed. C'est la saison 4. C'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Un programme disponible sur jobradio.fr, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et puis, si vous avez encore une fois apprécié cet épisode, eh bien, partagez-le. Laissez une évaluation positive sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de votre fidélité et à très vite.
Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.